Et donc, l'interlocutrice de Zero Waste, c'est Emeline Baume à Lyon,
Tout à fait.
qui reçoit du plaidoyer sur la réduction des déchets, qui traite de ce sujet depuis le début du mandat, avec des concrétisations. Nous, on a eu l'occasion de le voir avec ce dispositif des donneries. Voilà, une question un petit peu comme en tant qu'élu, finalement, comment appréhender ces sujets-là? Parce que des déchets, il y en a énormément sur le territoire du Grand Lyon, de tout ordre, évidemment, et qu'ils soient industriels, des habitants, etc. Par quoi on commence? Et puis, quelles ont été les concrétisations au Grand Lyon là-dessus?
Donc bonsoir. Donc juste un petit détail, mais ça compte dans la vie politique concrète. Les élections ont eu lieu en 2014. Il se trouve que je suis une petite spécificité. La délégation prévention des déchets ou réduction des déchets, elle a été créée il y a un an seulement. Voilà. Donc par rapport à Gilles Vesco, j'ai un an de retard. Voilà. Alors. Il y a beaucoup de déchets. On produit beaucoup de déchets sur la métropole de Lyon pour deux raisons. Nous sommes très nombreux. Et il y a beaucoup d'activités économiques. Donc il y a des déchets ménagers et des déchets d'activité économique. C'est important d'avoir les deux à l'esprit. À l'heure actuelle, pour faire à gros trait, parce que je ne pensais pas trop parler de ça, 60% des déchets sont incinérés, 30% recyclés, le reste enfoui. C'est vraiment à gros trait. Et je parle des déchets ménagers, les déchets d'activité économique. Malheureusement, écoutez bien, 60% enfouis, 40% recyclés. Vous avez bien entendu. Voilà, l'enjeu, il est sur les déchets d'activité économique. Ceci explique, entre autres, que hier, j'ai eu la joie de participer un tout petit bout d'une rencontre européenne sur le remanufacturing. Et si vraiment, là, dans la salle, il y a des étudiants ou des gens qui ne savent plus quel concept intellectuel travailler, je vous en prie, mettez-vous là-dedans. Voilà. Pour revenir au sujet global de la question de la société sobre en carbone et tout, merci Olivier d'avoir parlé au-delà du CO2. Moi, j'ai envie de vous parler déchets, mais aussi de vous parler bien-être et de vous parler emploi. Avec ma casquette de Madame Prévention des déchets, ma mission à la métropole, c'est de dire, voilà, on respecte la fameuse hiérarchie des déchets. Et donc, on met, c'est Métropole de Lyon, des choses en œuvre pour pouvoir faciliter, non pas l'éco-conception, parce que pour l'instant, on n'est pas trop d'ordre là-dedans, mais faciliter au moins la réparation, la réutilisation. Une application concrète. Donc moi, j'ai eu ma délégation en avril 2015 et en novembre 2015, il y a eu une signature de convention, entre autres avec la Clavette, mais pas que, pour pouvoir gérer des espaces qui s'appellent des donneries, qui sont en déchetterie, donc en rapide. Quand vous faites l'effort d'aller en déchetterie, la plupart du temps en voiture particulière, à l'entrée, la personne, le gardien, la gardienne, l'agent, a été formé pour pouvoir entrer en dialogue avec vous, vous dire « Aline, ce que tu as dans ton coffre, est-ce que tu accepterais de le donner plutôt que ce ne soit valorisé juste en termes de matière et que tu le mettes dans une benne matériaux ?» Aline répond « Mais bien entendu, tac !» Tu vas dans un endroit qui n'est pas un préfabriqué tout pourri, qui prend l'eau et dans lequel on peut tout piquer, mais qui est un beau bâtiment en dur qui coûte 60 000 euros, je vous dis tout. Et tous les jours, le petit bâtiment est vidé et on répartit le contenu entre plusieurs associations, dont les ateliers d'autoréparation, qui à ce jour n'ont pas récupéré d'ailleurs beaucoup de pièces détachées ou de vélos, je le sais. Et donc, on doit plus et mieux informer et communiquer.
On voulait profiter des rencontres parce qu'on a de la main d'œuvre.
Voilà. Non, mais plus c'est mieux informer les habitants du Grand Lyon et surtout faire plus et mieux de proximité, ce qui est le cas quand je vais peut-être me planter, mais quand Pignon-sur-Rue fait son opération Place Satonnet, sortez vos vélos. Je sais jamais si c'est Pignon ou une autre asso, mais il se trouve que la métropole travaille aussi un concept de déchetterie mobile de proximité qui répondra un peu plus et mieux aux attentes des habitants du cœur de ville, qui ne se déplace pas en voiture particulière et qui soit avait l'idée bizarre de mettre sur espace public, entre autres leurs vélos, mais en général, il y a un peu d'économie parallèle sur les vélos. On nous les prend, ça vous arrive, ça m'arrive, et puis on les retrouve pas, mais ça sert à d'autres gens. Ou alors, mettez dans ce qu'on appelle les bennes à encombrants, entre autres pour la ville de Lyon, et au malheur, les bennes à encombrants n'étaient absolument pas valorisées, mais aux trois quarts enfouies. Donc, les donneries, première action concrète. Deuxième action concrète, montrer la voie au plus grand nombre de gens. Parce que vous êtes les gens, comme disait Raphaël ici, à peu près à la louche, comme ça, c'est du délit de faciès. Vous êtes OK pour la transition, vous êtes OK pour l'économie de proximité, vous êtes OK pour la sobriété énergétique, vous êtes OK pour diminuer les intrants, pour une alimentation de qualité et tout. Il se trouve qu'on n'est pas tous convaincus, il faut élargir le cercle des convaincus, non pas en donnant une Bible et le guide vert ou le guide rouge, mais en faisant la preuve par l'exemple. C'est ce que Raphaël, je crois, disait, c'est l'expérimentation. Et donner à voir que, ce que disait Olivier tout à l'heure, si on veut que dans nos cités, on puisse vivre sainement et travailler, je dis bien travailler et pas forcément avoir un emploi, trouver du sens, les filières de réparation et de réemploi, tiens, ça peut correspondre. Et donc, moi, je me suis dit, bon ben, Ségolène Royal a lancé un appel à projet qui s'appelle Territoire zéro gaspille, zéro déchet. Eh bien, pourquoi la métropole de Lyon ne s'engagerait pas sur cette voie ? C'est pas magique, hein, c'est juste montrer la voie. Donc, on a postulé, tac, tac, on a été retenu. Donc, depuis fin novembre, nous sommes labellisés Territoire zéro déchet, zéro gaspille. Ça ne veut pas dire zéro croissance. Ça veut juste dire on se met en route pour casser l'économie. Enfin, casser. Tendre de passer de l'économie linéaire à une économie circulaire. Voilà, ça veut dire ça. Et ça veut dire toutes les initiatives que l'on porte sur le territoire. Donc, ni Gilles Vesco, ni Emeline Baume, ni même Gérard Collomb n'ont la solution. La solution pour passer de l'économie linéaire à l'économie circulaire, elle est dans la tête des chercheurs, dans la tête des entrepreneurs, dans la tête des artisans, dans la tête des copropriétaires, dans la tête des bailleurs, dans la tête des associatives, dans la tête des grandes gueules qui font du plaidoyer, dans la tête des gens plus sages et plus posés, des vieux associatifs qui sont au conseil de développement. Et donc, je dois m'atteler, en cette année 2016, à commencer à travailler un schéma d'économie circulaire. Enfin bref, une politique publique qui va dire ça et qui va dire dans quel cadre et comment, en plus de ce que fait Gilles Vesco pour accompagner les ateliers d'autoréparation, en plus de ce que fait un petit peu David Kimmelfeld en matière d'économie sociale et solidaire, comment on peut plus et mieux structurer, ça c'est le mot magique en termes de politique publique, structurer des filières à l'échelle, je vous le dis carrément, géographiquement, de l'aire métropolitaine lyonnaise. Voilà, ça c'est mon boulot. Et mon boulot, c'est de dire que le recyclage, il faut que ce soit le dernier recours. Pourquoi ? Parce que réparer et réutiliser des objets, ça mobilise plus d'hommes et de femmes. Et moi, ce qui m'importe, c'est qu'on trouve tous un sens à notre vie, qu'on consomme moins de ressources premières. Je trouve plus mon mot, mais vous avez compris. Et je suis là pour ça, jusqu'en 2020. Après, il y aura d'autres gens qui le feront. Et vous serez tous très contents parce qu'on aura fait un grand saut, je pense. Et je rejoins ce que disait Raphaël tout à l'heure. Il ne faut pas tout attendre du paquet économie circulaire de l'Europe. Il ne faut pas tout attendre de la loi TECV nationale. Il ne faut pas tout attendre des plans climat de nos territoires. Il faut surtout que vous vous exprimiez de la façon dont vous pouvez. Vous le faites là ce soir, mais vous le fassiez honnêtement. Plus et mieux, le mot plaidoyer, c'est à la mode, mais faites-le plus et mieux. Merci.
Merci Emeline. Eh ben, je vais laisser la parole maintenant à Aline Dana pour qu'elle s'exprime plus et mieux.
Sacré défi.
Voilà, en tant que porte-parole du réseau, peut-être de rappeler ce qu'est le réseau dans un premier temps, et puis de faire état de la manière dont les ateliers vélo peuvent travailler sur différents territoires. Aline, je te laisse la parole.
Merci. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de représenter le recyclage, donc le réseau des ateliers vélo participatifs et solidaires. Déjà, ça en dit long, je trouve. Donc, rapidement, quelques chiffres. En 2014, on a sorti ce qu'on appelle le panorama des ateliers vélo. Donc, ça Enfin, ça concerne 2014, mais c'est sorti en janvier, donc c'est tout chaud, janvier de cette année. Et donc quelques chiffres. Nous sommes en 2014 110 ateliers à exister sur le territoire français, ce qui représente 50 000 personnes qui adhèrent, soutiennent un atelier local à côté de chez eux, soit deux fois plus qu'il y a trois ans. Je vous laisse prendre des notes en même temps. 220 personnes qui sont donc des emplois, des équivalents temps plein, donc des personnes qui vivent de ça. Ce qui a tout toute cette magie a permis de remettre en route, de remettre sur la route 19 000 vélos, soit deux fois plus qu'en 2013. Enfin voilà, c'est très chouette, on s'éclate. Mais le recyclage, c'est pas que ça, c'est surtout une charte. Donc en trois points. Le premier point, ce serait de promouvoir le vélo comme moyen de transport du quotidien. Ça, je ne vais pas argumenter. Quand on est dans une conférence sur la transition écologique, je crois qu'on va s'entendre là-dessus. Ensuite, ce serait de favoriser le réemploi. Donc ça, c'est assez facile. Enfin, c'est facile. Non, je retire tout de suite. Ça prend du temps, c'est long, on apprend à communiquer, etc. Mais il y a des politiques qui permettent, grosso modo, de favoriser l'accès à notre matière première et de ne plus considérer un vélo comme un déchet et du coup de le remettre en circulation en le réemployant, c'est-à-dire en lui permettant de continuer à garder son statut de moyen de transport. Donc ça, c'est des choses qui sont plutôt faciles. Le dernier point de la charte, c'est le partage de savoir et de savoir-faire. Et là, c'est un petit peu ce qui fait la spécificité de le recyclage, et je trouve que c'est ce qui va bien avec ce que Raphaël disait. L'idée, c'est de se mettre à travailler comment le savoir va être accessible, comment les espaces vont être accessibles aux plus de personnes, et comment le vélo va devenir un moyen accessible à plus de personnes. Donc c'est un sacré défi, parce qu'on parle aussi d'accessibilité financière. Donc l'idée, c'est d'avoir un moyen de transport qui soit accessible financièrement aussi. Et donc, quand on rentre dans un atelier vélo tel que le recyclage, on va voir des voisins et des voisines qui sont là pour apprendre à réparer les uns avec les autres leur vélo. On va voir des outils, on va voir tout ce qui va permettre de faire cette spécificité de la transition écologique selon le recyclage, c'est-à-dire le volet social, mais pas tellement en termes d'objectifs, mais plutôt en termes de moyens. L'autoréparation des vélos, ce ne serait pas tellement notre but, ce serait plutôt notre prétexte, en fait, à faire les choses autrement, à changer un petit peu le paradigme pour réfléchir les choses. Par exemple, l'idée, ce serait de changer un rapport au savoir avec de l'éducation populaire, de moins avoir des personnes qui savent et des personnes qui ne savent pas. C'est pas suffisamment proche. Ok. De changer notre rapport aux objets, donc de plus les considérer comme des biens à consommer, mais comme des biens qu'on entretient, des biens dont on prend soin, des biens qui sont à soi, ou qu'on partage, parce que du coup, plus il y en a et moins on a besoin de que ce soit bien à soi. De questionner aussi la valeur des choses, le temps qu'on y passe. C'est des endroits où il y a tout un tas de questions qui se posent et où ça va avec cette idée que la transition, c'est aussi une transition de manière de faire et de manière de voir les choses. Et puis, du coup, ce qui n'est pas le moindre, c'est que ça permet de renforcer les personnes qui se font l'expérience d'un atelier vélo et de renforcer les liens qu'il peut y avoir entre elles. Donc c'est pas une histoire de créer du lien social, enfin c'est pas que ça. Ça va être une histoire de juste pouvoir travailler un petit peu différemment les relations qui se créent entre les personnes, en leur laissant juste la possibilité de s'expérimenter les unes les autres sous prétexte de faire de la mécanique. Si aujourd'hui l'accès à la matière première que sont les vélos ne constitue pas forcément une limite qui nous semble une difficulté à franchir, parce qu'on voit bien que ça, c'est quelque chose qui bouge, et notamment avec ce qu'Emeline disait, un des points qui continue à poser problème et sur lequel il y a une véritable collaboration à mettre en place entre les élus, entre les collectivités et les différentes politiques publiques, ça va être l'accès aux locaux. Parce que ce que je décris de ce qui se passe dans un atelier vélo comme un endroit merveilleux où on est tous les uns avec les autres, les unes avec les autres, on apprend en faisant. Et ben, c'est possible que lorsqu'il y a un lieu qui se fait le repère de la création d'échanges, un endroit où juste on peut stocker des vélos et donc avoir du matos, c'est l'essentiel. Et c'est en moyenne en France 135 mètres carrés, mais honnêtement, il n'y a pas de taille minimum pour commencer à lancer un projet. On a une capacité à être créatif dans la contrainte absolument merveilleuse, vraiment. Et puis il y a un dernier sujet que j'aimerais développer, c'est le fait que 25% des ateliers vélos qui sont en France sont dans des quartiers que l'on qualifie de politique de la ville, et que ça, je trouve que ce n'est pas rien, parce que quand on parle de politique vélo, on parle de beaucoup de choses très macroscopiques, avec une pratique de la mobilité qui serait comme universelle, alors qu'au final, dans ces quartiers qu'on dit politique de la ville, il y a une pratique de la mobilité qui me semble souvent assez méconnue et pourtant différente. Et les ateliers vélos, en tout cas, sont un moyen de venir écouter ces relations à l'objet, ces relations aux moyens de transport, pour mieux les comprendre et peut-être envisager des solutions un petit peu plus appliquées dans un contexte local. La bonne nouvelle, et je terminerai là-dessus parce que je suis plutôt quelqu'un de positif, c'est que les politiques de la ville qui permettent de porter pas mal des initiatives des ateliers vélos, alors bon, ça passe par la prévention de la délinquance, parce que c'est ça la case cochée, mais on sait bien qu'on fait tout autre chose. Les politiques de la ville sont en train d'être rechangées, enfin d'être transformées. Un rapport a été remis au ministre de la ville qui critique un petit peu ce qui est fait pour redonner une place aux élus et notamment aux communautés d'agglomération. Et là, je parle de mon expérience à moi parce que je ne suis pas lyonnaise, mais que ma communauté d'agglomération et ma commune avec qui je discute commence à appliquer ce rapport qui a été remis pour critiquer les politiques de la ville, critiquer dans le bon sens, et remettre les politiques à une place où ils sont le soutien des ateliers vélos et où ils vont les aider notamment à parler avec des acteurs dont on ne parle pas la même langue, en fait, parce que nous, on ne sait pas très bien parler avec des bailleurs sociaux, etc. Et avec le soutien d'une mairie, on arrive à remettre au cœur du sujet du financement, justement, de ce genre d'initiative, des acteurs qu'on a du mal à aller solliciter, et puis de remettre surtout les habitants du quartier comme des décisionnaires et des arbitres, même financiers, des différentes politiques publiques. Donc j'espère que ce sont des choses qui vont changer un petit peu nos manières de faire et soulager aussi toute la difficulté qu'il y a à avoir des modèles économiques stables lorsqu'on fait des ateliers vélos.